Ça va, vous tenez le coup?
Il fait chaud, hein? Heureux de vous voir, de vous revoir. Merci Alexis et merci pour ces chants où nous avons déjà dit beaucoup de choses bienfaisantes. Et c'est toujours une vraie joie d'être ensemble à l'écoute de notre Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le repos en est une. Lors de ma prédication précédente, nous avons médité la prière dite du Notre Père. Enfin, c'est ce que j'avais annoncé. Mais en fait, vous avez pu constater qu'on s'est arrêté en cours de route. Nous n'avons même pas terminé la première partie qui concerne Dieu lui-même. Dieu notre Père. Nous nous sommes arrêtés à la deuxième requête, à savoir que ton règne vienne. Quelques-uns me l'ont dit, ils sont restés sur leur faim. Et la suite alors? Quelques personnes m'ont invité à poursuivre la méditation de cette prière tellement riche. Alors, il n'y a qu'à. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de nous plonger dans l'étude de cette demande, comme ça, hein, sans y avoir réfléchi à brûle pour point, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? En silence, hein? Qu'est-ce qui vous vient? C'est quoi la volonté de Dieu? Pour ma part, deux pensées me sont venues. La première concerne Dieu lui-même. C'est donc le verset de Timothée 2:4. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est la première pensée qui m'est venue. Et puis la deuxième, qui nous concerne un peu plus, c'est Michée, qui nous en fait la synthèse, Michée 6:8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Très bien. Mais alors, la question qui me vient de suite après, c'est comment marcher humblement avec mon Dieu ? Autrement dit, comment faire sa volonté? Quelques mots sur la demande elle-même. Que ta volonté. Il y a donc d'autres volontés, y compris la nôtre. Que ta volonté soit faite. Ça veut dire peut-être qu'elle ne l'est pas. Et pourquoi Jésus fait-il cette requête? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite sur la terre de la même manière qu'elle est faite actuellement au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaitement respectée. Et elle doit être le modèle pour notre terre. Cette requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est la troisième requête. Après celle donc de, vous vous souvenez, non, j'entends pas grand-chose. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Elle est directement liée aux deux précédentes. Mais elle peut nous déstabiliser, car il n'est pas toujours aisé de distinguer notre propre volonté avec nos propres personnalités de celle de Dieu. Et elle nous amène à nous interroger sur le sens même de notre destinée et vivre en harmonie avec le projet divin. Combien de philosophes et de théologiens ne se sont-ils pas interrogés sur le sens de cette demande ? Lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite », à quoi pensons-nous ? De quoi parlons-nous ? Qu'entendons-nous par volonté de Dieu? Que demandons-nous réellement? Un événement heureux ou malheureux nous atteint. Est-ce la volonté de Dieu? Certains disent « rien ne se passe par hasard » ou « le hasard n'existe pas ». Dieu serait-il derrière chaque événement? Voici donc les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Nous allons voir d'abord dans les Écritures de quoi il en retourne. L'excellent ouvrage « Pour une foi réfléchie » auquel avait participé, pour ceux qui le connaissent, Claude-Henri Gobat, qui était pasteur chez nous et qui est actuellement le président de l'association de notre union d'église. Donc ce « Pour une foi réfléchie » précise que Dieu n'a qu'une seule volonté. Cependant, il nous est permis de distinguer plusieurs facettes. Une volonté décrétive, une volonté préceptive et une volonté permissive. Donc d'abord, sa volonté décrétive. Dieu décide, il fait des choix, il décrète, il dit et la chose s'accomplit. Par exemple, le décret de création, il a décidé de créer l'univers, le monde et l'homme. Après avoir créé le ciel et la terre, la nature, les animaux, il crée l'homme à sa ressemblance, les bénit et leur donne ses instructions que nous trouvons dans Genèse 1, versets 26 et 27. En d'autres termes, il donne sa volonté. Genèse 1, 31, Dieu regarda ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Et puis, il y a sa volonté préceptive. C'est ce que le Dieu moral veut de la part de ses créatures. Elle est révélée par sa loi et sa parole. Elle nous concerne et nous interpelle directement. Nous allons y revenir. Et puis, sa volonté permissive. Donc, Dieu a tout créé en constatant que c'était très bon. Mais voilà, l'homme et la femme ont décidé de désobéir et d'aller contre la volonté de Dieu, et ainsi de favoriser leur propre volonté. Ils ont décidé, en quelque sorte, de modifier le décret de Dieu et de devenir eux-mêmes des dieux. Dieu a donc décidé souverainement et mystérieusement de permettre au mal et avec lui le péché de s'introduire dans sa création. C'est sa volonté permissive. Toute l'histoire de l'humanité se retrouve dans cette opposition. Immédiatement après la désobéissance du couple humain, ce que nous appelons la chute, Dieu a entrepris son double travail de révélation et de restauration. L'humanité allait subir les conséquences douloureuses de sa rébellion contre Dieu. Après avoir donné sa loi, sa volonté préceptive, que les hommes n'ont pas été capables d'appliquer, Dieu, par amour pour l'humanité, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez reconnu Jean 3,16. Autrement dit, Dieu a fait le nécessaire pour rétablir la relation initiale qu'il a voulu. Par pure grâce, en Christ Jésus, il donne naissance à une nouvelle humanité par l'œuvre rédemptrice, libératrice et transformatrice de son Fils, dans un plan d'amour qui nous dépasse. De créatures rebelles, il a fait de nous ses enfants. C'est le décret de rédemption qui manifeste sa souveraineté et sa grâce. Dieu a décidé de toute éternité ce qu'il a inscrit dans son plan et par conséquent, Ça arrivera. Nous ne connaissons cette volonté, bien sûr, qu'en partie. Dieu a un plan pour le monde et il le mène à exécution. Éphésiens 1, 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. La volonté de Dieu apparaît aussi dans sa providence, c'est-à-dire la manière dont Dieu gouverne le monde, s'en occupant selon sa volonté et pourvoyant à ses besoins. C'est la définition de « pour une fois réfléchi ». La providence divine n'est pas toujours facile à comprendre, quand on voit notamment l'état de notre monde aujourd'hui. Pourtant, Dieu reste souverain. Dieu ne veut le mal sous aucune de ses formes. Il n'en est jamais la cause. On ne peut pas attribuer à la volonté de Dieu les conséquences de la volonté humaine pervertie. Et même si nous ne comprenons pas tout, nous avons cette certitude que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Ce qui veut dire que malgré toutes les oppositions, Dieu réalisera ses desseins à l'égard du monde, de son peuple et de chacun de ses enfants. Sa volonté préceptive, ou ce que Dieu attend de nous, sa loi, ses commandements, Dieu a établi un ordre moral pour notre bien, que nous trouvons dans les Écritures, la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc examinons ce que Dieu dit dans sa parole, quelques textes fondamentaux. On n'a pas le temps de lire toute la Bible. On va lire quelques extraits. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Et là, il donne 4 commandements concernant notre relation avec Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. » On retrouve là cette notion de volonté de Dieu pour le repos. Lui-même s'est reposé le septième jour. Et puis il nous donne 6 commandements concernant nos relations entre humains. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Puis d'autres textes aussi, Ézéchiel 33, 11, où on revient sur le fait que l'Éternel ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et Michée déjà a dit, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dans le Nouveau Testament, Éphésiens 1, versets 3 à 12, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, en lui. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonné de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de nous réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Nous l'attendons. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. 1 Timothée 2,4, que nous avons déjà cité, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. C'est Jésus donc qui parle, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Matthieu 22, 36, 39, on pose la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et puis Jésus donc reprend en fait les commandements que de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Par exemple, dans le Deutéronome 6, versets 4 à 8, où il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. » Lévitique 19, 18. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ce que rappelle l'apôtre Paul dans Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et enfin, Deutéronome 11, 1, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles, et ses commandements. » Je m'arrête là, sinon pour aller loin. Mais là, je crois qu'on a vraiment l'essentiel de la volonté de Dieu. Un mot toutefois sur les bénéfices de faire la volonté de Dieu. Colossiens 1, 9 à 14. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Quelle perspective! Quelle perspective! Alors, nous avons dit effectivement ce que dit l'Écriture de la volonté de Dieu. Alors, la question maintenant, elle nous est posée. La volonté de Dieu s'accomplit-elle dans ma vie? C'est une bonne question, n'est-ce pas? L'apôtre Paul disait « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Romains 7, 18. Au verset 24, « Malheureux être humain que je suis. » Alors, elle s'accomplit dans ma vie, cette volonté? Non, et oui. Elle ne s'accomplit pas chez l'homme qui désobéit ouvertement à Dieu. On est d'accord. Mais chez nous qui croyons, comme l'apôtre Paul, nous luttons pour accomplir cette volonté malgré notre faiblesse. José Martinez, dans son ouvrage, cite Luther. Et il dit « Que ta volonté soit faite et son accomplissement coûte beaucoup à la nature humaine, car la volonté propre est en nous le mal le plus profond et le plus grand. » Et nous n'apprécions rien autant que cette volonté. Oui, la volonté de Dieu se heurte à la nôtre depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu a établi un ordre moral et il souhaite effectivement que nous accomplissions ce qu'il souhaite et que nous vivions en accord avec les principes éthiques qui émanent de son propre caractère. Et ce sont donc les normes que nous retrouvons dans le Décalogue et la loi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, par lequel Jésus, notamment dans le sermon sur la montagne, a appliqué parfaitement lui-même ces normes. Et la volonté de Dieu est que nous vivions conformément à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Le respect ou non de cet ordre moral n'est pas sans conséquence ni pour l'individu lui-même, ni pour la société. Nous constatons chaque jour, avec tristesse et désarroi, des drames qu'engendre le non-respect de cet ordre moral. C'est Dieu qui définit le bien et le mal. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Alors comment discerner la volonté de Dieu? Dieu nous aide à discerner le bien et le mal et à faire sa volonté en nous donnant la loi, ce que nous avons lu, ses commandements que nous trouvons dans les Écritures, nous les avons rapidement parcourus. Il nous donne aussi l'amour, celui de Dieu pour nous et celui de notre prochain qui nous donne une direction de vie. Et il nous donne la sagesse. La Bible ne nous donne pas de solution toute faite, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons demander la sagesse d'en haut pour nous éclairer, nous guider dans chaque situation de notre vie. C'est ce que rappelle d'ailleurs Jacques, chapitre 1, verset 5, et chapitre 3, verset 17. Il nous faut reconnaître que les choses ne sont pas si simples. Liés à nous et les autres. Les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Des événements indépendants de notre volonté se multiplient et nous orientent vers une direction. Alors on peut penser que c'est Dieu qui le souhaite. Il dégage un peu les pierres de notre chemin. On se dit, ben oui, c'est la volonté de Dieu. Puis il s'avère que c'est une impasse. Quelle est donc la volonté de Dieu dans cette situation? Ne nous décourageons pas si nous ne parvenons pas à respecter parfaitement la volonté de Dieu et à comprendre. Jésus nous comprend, lui qui a été tenté en tout point comme nous. C'est ce que rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans connaître de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, quelles sont nos attitudes, notre manière de faire par rapport à la demande de volonté de notre Dieu? Elles peuvent être très diverses. D'abord, ce que nous constatons, malheureusement, c'est cette résistance indignée. C'est celle de celui qui refuse obstinément la volonté de Dieu. Il veut garder sa pleine autonomie, comme celle des pharaons, par exemple, qui s'exclame « Mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse ?» Nous savons que cette attitude ne sera pas sans conséquence. C'est celle de la plupart de nos contemporains, malheureusement. Et puis, il y a la résistance passive. C'est l'attitude de quelqu'un qui ne se rebelle pas ouvertement contre la volonté de Dieu, mais qui ne l'accepte pas forcément non plus. Il n'est pas convaincu que cette volonté soit bonne, et lui déplaît parfois. Ainsi, il veut évaluer la volonté de Dieu par rapport à la sienne. Il pèse le pour et le contre. Il veut garder sa possibilité de faire ou ne pas faire, ou de la faire à moitié. Ne serait-ce pas un peu l'attitude des chrétiens tièdes dénoncée par Jésus aux chrétiens de Laodicée? Et puis, il y a l'acceptation résignée. Elle est fréquente même chez les chrétiens sincères. On observe la volonté de Dieu, mais avec amertume peut-être, presque à contre-cœur, surtout quand les circonstances sont contraires. Et d'un ton désigné, on dit « que ta volonté soit faite ». Enfin, il y a la bonne attitude, l'acceptation joyeuse inspirée par la foi. C'est l'attitude de celui qui croit que la volonté de Dieu est bonne, juste, bienfaisante, source du vrai bonheur. Et il peut le dire avec le psalmiste, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Psaume 40, verset 9. Il désire y marcher et suivre l'exemple du Christ Jésus, dont la nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Jean 4, 34. Cette attitude joyeuse soutiendra le chrétien, le croyant dans toutes ses épreuves, car il sait qu'au terme de chaque épreuve, Dieu se révèle comme étant plein de tendresse et de compassion. Ce que rappelle aussi Jacques, chapitre 5, verset 11. Et cette soumission à la volonté de Dieu peut comporter malheureusement des coupes de douleur. Jésus lui-même a vécu l'expérience de Gethsémané à la manière très dure, où il est arrivé au point de dire à son père, « Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et lorsque le conflit est terminé, l'ange le fortifie, puis viendra la victoire. Dieu nous soutiendra toujours dans l'épreuve, si nous lui faisons confiance. Nous grandirons avec les bénédictions que Dieu nous accordera pour notre plus grande joie, dans l'espérance de notre foi. Et comme l'apôtre Paul, nous pourrons dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » C'est dans Romains 8, 18. Mais quand je dis ça, je vois aussi toutes les difficultés de se l'approprier. Et j'ai une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs persécutés, dont nous lisons les situations dans le fil rouge de Portes ouvertes. Et puis, on peut aller plus loin avec une attitude de collaboration. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu veut nous utiliser pour la réalisation de ses desseins. Bien sûr, nous avons des dons différents, mais Dieu les utilise si nous voulons les lui donner et les faire fructifier. C'est la volonté de Dieu que l'Évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ainsi, lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite », nous nous engageons à être des annonciateurs de l'Évangile. C'est aussi la volonté de Dieu que la justice, la paix et la vérité soient établies sur la terre. Rien ne sera plus efficace que notre témoignage, tant dans nos paroles, dans notre comportement, dans nos actes, nous qui sommes sel de la terre et lumière du monde. Alors, quand nous prions que ta volonté soit faite, il nous faut ajouter, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que retenir de tout cela ? Conclusion. Dieu nous a révélé son plan d'amour pour l'humanité et a établi des règles qui sont très bonnes pour notre bonheur. Jésus nous a montré la voie en devenant notre modèle parfait. De plus, il a prié le Père pour nous donner un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec nous. Ce même Esprit Saint nous guide et nous aide à faire la volonté de Dieu pour notre bien et pour sa gloire. Lorsque nous prierons que ta volonté soit faite, nous nous rappellerons tout ce que cela implique. Demandons à Dieu par son Esprit Saint de nous y aider. Ne nous conformons pas au monde actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Que Dieu nous y aide pour notre bonheur et sa gloire et l'avancement de son règne. Amen.